mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Au micro, Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Bonjour. Bientôt 10 millions de cas dans le monde et des perspectives économiques catastrophiques, la pandémie de COVID-19, loin de ralentir, promet des semaines et mois sombres pour la planète. Le FMI a fait état hier de perspectives encore plus sombres que prévues pour l'économie mondiale, au moment où l'épidémie enregistre une poussée préoccupante dans le sud et aussi l'ouest des États-Unis. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant. Le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti hier que la pandémie de coronavirus en Afrique perturbe des campagnes de vaccination, des programmes de traitement du paludisme et du sida, ainsi que de nombreuses autres opérations de santé. En Afrique, où l'on déplore plus de 8 600 morts pour 326 000 cas, la propagation sur le continent augmente rapidement, a souligné le patron de l'OMS. Au Sénégal, le président Macky Sall s'est mis en quarantaine pour 2 semaines après avoir été en contact avec une personne atteinte du COVID-19, a annoncé mercredi la présidence sénégalaise, ajoutant qu'il a cependant lui-même subi un test revenu négatif. Le Sénégal a déclaré officiellement 6129 cas de coronavirus, 4072 guéris et 93 décès. Sénégal toujours, la gendarmerie a indiqué hier avoir démantelé un réseau spécialisé dans l'envoi de jeunes femmes vers le Moyen-Orient et interpellé à Dakar 87 Sierra Leonaises en partance pour cette région et 2 de leurs compatriotes soupçonnés d'avoir organisé le trafic. On ne sait pas si ces jeunes femmes étaient destinées à des réseaux de prostitution ou si elles devaient être employées comme domestiques. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé hier la prolongation d'une semaine jusqu'au 30 juin de la révision des listes électorales en vue des scrutins présidentiels et législatifs d'octobre. Cette prolongation, demandée notamment par l'opposition, a été décidée selon un communiqué sur proposition de la CI pour permettre que le collège électoral du pays reflète proportionnellement sa démographie. Il s'agit de la Commission électorale indépendante, la CEI. Au Togo, le mouvement de l'opposition représenté par l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo, arrivé deuxième à la présidentielle de février, a demandé hier la libération immédiate de 16 de ses militants incarcérés depuis le 21 avril et jugés récemment dans un procès qu'il juge expédié. Au Bénin, le journaliste d'investigation Ignace Sossou est sorti de prison ce mercredi après avoir passé 6 mois en détention pour harcèlement sur les réseaux sociaux. Le journaliste, qui avait été condamné en appel à 6 mois ferme et 6 mois avec sursis, avec une amende de 500 000 francs CFA, s'est pourvu en cassation. En Géorgie, dans le sud des États-Unis, un grand jury a officiellement inculpé de meurtre les 3 hommes arrêtés après la mort d'Ahmad Arbery, un jeune jogger noir de 25 ans, abattu le 26 février alors qu'il courait dans un quartier résidentiel de Brunswick. Le siège de la NASA à Washington va être rebaptisé au nom de sa première ingénieure africaine-américaine, Mary Jackson, a annoncé hier l'administrateur de l'Agence spatiale américaine. L'an dernier, la NASA avait déjà rebaptisé la rue desservant son siège Hidden Figures Way, en l'honneur de 3 mathématiciennes noires, Mary Jackson, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, dont le travail documenté dans le film Les Figures de l'ombre s'est avéré précieux dans la conquête spatiale américaine. Le procureur du tribunal spécial pour le Kosovo a accusé hier le président kosovar Hashim Thaçi, l'ex-chef de la rébellion indépendantiste, de crimes de guerre et de crimes. La suite de nos informations. En République démocratique du Congo, la police a de nouveau dispersé hier des manifestants autour du Parlement. Depuis deux jours, ils protestent contre des propositions de loi sur le fonctionnement de la justice. Claire Morin-Gibourg.
Les manifestants à proximité du Parlement étaient en grande partie des mototaxis, réputés fidèles à l'UDPS, le parti du président Félix Tshisekedi. Ils protestaient contre trois propositions de loi sur la justice, portant sur le statut des magistrats, déposées par deux députés du Front commun pour le Congo, la plateforme des proches de l'ancien président Joseph Kabila. À moto et à pied, ils ont bloqué la circulation. Certains ont attaqué des résidences de proches de l'ancien président. À la mi-journée, la police a chargé avec des tirs de sommation et des gaz lacrymogènes pour les disperser. L'un des auteurs de la proposition de loi, Aubin Minaku, a assuré qu'il ne s'agissait pas de museler les magistrats du parquet. L'UDPS, au contraire, s'inquiète que ces propositions de loi ne visent qu'à entamer l'indépendance de la magistrature avec un droit de regard du ministre de la Justice. La coalition Lamuka a également assuré que les propositions de loi portent un coup fatal au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. Lundi, des manifestants avaient caillassé la résidence de M. Minaku.
À l'exception des États-Unis, la communauté internationale s'est opposée hier au Conseil de sécurité de l'ONU au projet d'Israël d'annexer une partie de la Cisjordanie. Les Palestiniens envisagent de saisir la Cour internationale de justice et réclament des sanctions. Eric Manirakiza.
Lors d'une vidéoconférence, les chefs des Nations Unies et de la Ligue arabe ont demandé à l'unisson à Israël d'abandonner ses plans qui pourraient mettre fin aux efforts en faveur de la création d'un État palestinien viable. L'objectif doit rester d'avoir deux États, Israël et un État palestinien indépendant, démocratique, vivant côte à côte en paix et en sécurité avec Jérusalem, capitale des deux États, a souligné Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Les intervenants, dans une écrasante majorité, ont mis en garde contre toute annexion. Sept pays européens, dont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ont souligné qu'une annexion compromettrait gravement la relance de négociations. Elle détruirait toute idée de paix à l'avenir, a aussi dit le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abolgeit. Ces positions tranchent avec le plan pour le Proche-Orient de l'administration Trump, qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Le plan américain prévoit un État palestinien réduit et morcelé. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a rétorqué qu'une éventuelle annexion de ponts entiers de la Cisjordanie et de la vallée du Jourdain revenait aux Israéliens. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit annoncer à partir du 1er juillet sa stratégie pour mettre en place le plan américain.
Le sud et l'ouest des États-Unis sont devenus le point chaud de l'épidémie de coronavirus. Des records de nouveaux cas, une hausse des hospitalisations, des malades plus jeunes de la Floride à la Californie entraînent le retour des restrictions. Le point avec Michel Joseph.
Les États-Unis affichent le pire bilan avec plus de 121 000 morts et près de 2,3 millions de cas. Durement frappés au début de l'épidémie, les États de New York, New Jersey et du Connecticut ont décrété hier une quarantaine pour les personnes venant des autres États américains où la pandémie s'accélère. Le Texas a enregistré plus de 5400 nouvelles infections. Ce record a poussé le gouverneur Greg Abbott à appeler ses concitoyens à rester chez eux. En Floride, les images de baigneurs retournant sur les fameuses plages de Miami ont fait le tour du monde à leur réouverture le 10 juin. Hier, cet état touristique a enregistré un nouveau record de nouvelles infections chez les jeunes. Le gouverneur Ron DeSantis a même menacé les bars et restaurants qui ne suivent pas les règles de distance qu'ils risquent de perdre leur licence de vente d'alcool. Depuis mardi, le port du masque est obligatoire dans la ville balnéaire. La Californie aussi a battu un nouveau record, tout comme l'Arizona voisine. Depuis que le confinement a été levé le 15 mai, le nombre de cas a été multiplié par 4.
La Minute Écho, Nani Talani.
Le président nigérian Muhammadu Buhari avertit que la CDAO pourrait se disloquer en cas d'adoption unilatérale et prématurée de la monnaie ECO par l'UEMOA pour remplacer le CFA. Dans une série de tweets publiés mardi, M. Buhari a pointé du doigt le manque de confiance qui prévaut dans les discussions devant mener à l'adoption de l'ECO. En février, le Nigeria avait demandé une prolongation du délai pour son lancement, arguant que la majorité des pays n'avaient pas encore rempli les critères de convergence. Le Nigeria représente 70% du PIB de la CDAO. L'économie mondiale cumulera plus de 12 000 milliards de dollars de pertes en 2020 et 2021 à cause du coronavirus. Cette crise, pas comme les autres, est bien plus sévère que prévu et la reprise sera plus lente qu'espérée, a prévenu le FMI. Gita Gopinath, son économiste en chef, a dévoilé une prévision de récession de 4,9% cette année, qui s'avère pire que les 3% anticipés en avril, quand le FMI soulignait déjà qu'il s'agissait de la pire crise depuis la Grande Dépression des années 30. Pour terminer, les États-Unis envisagent d'imposer des taxes punitives supplémentaires allant jusqu'à 100% et équivalent à 3 milliards de dollars de produits européens. Ces taxes ont été autorisées par l'OMC pour des produits importés de l'Europe dans le cadre de l'épineux dossier des subventions à l'européen Airbus. Cette bataille remonte à 2004, lorsque Washington a accusé les Européens d'accorder des subventions illégales à Airbus, faussant la concurrence avec Boeing, son rival américain.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le marathon de Berlin, prévu le 27 septembre prochain, est annulé depuis 2003. Les 7 derniers records du monde du marathon ont été réalisés sur le parcours berlinois, plat et particulièrement favorable. L'actuel meilleur marque appartient au Kenyan Eliud Kipchoge en 2h1 minute 39 secondes depuis septembre 2018. Le dernier vainqueur en 2019, l'Éthiopien Kenenisa Bekele, a échoué à 2 secondes du record du monde compte tenu de l'interdiction de tout rassemblement de plus de 5000 personnes à Berlin jusqu'au 24 octobre. Les organisateurs ont planché sur d'autres options pour repousser l'événement, mais la tentative d'élaborer avec les autorités locales et les experts un protocole sanitaire pour protéger les coureurs n'a pas abouti. Berlin est traditionnellement le rendez-vous de dizaines de milliers de coureurs venus du monde entier. Le marathon de New York, initialement prévu le 1er novembre, a lui aussi été annulé à cause du nouveau coronavirus. L'annonce a été faite par l'association New York Road Runners qui organise l'événement. L'édition constituait le 50e marathon de New York, créé en 1970. Annuler le marathon de cette année constitue une déception immense pour tous ceux qui y sont associés, a commenté le PDG de New York Road Runners, Michael Caparizo. Mais c'était clairement la marche à suivre du point de vue de la sécurité sanitaire. Les organisateurs offriront la possibilité aux personnes inscrites de se faire rembourser leurs frais d'inscription ou de reporter leur participation à 2021, 2022 ou 2023. Lors de l'édition 2019, cette course a battu le record du nombre de participants ayant franchi la ligne d'arrivée d'un marathon avec 53 640 coureurs. Cette année, l'organisation tablait sur plus de 53 000 coureurs à l'arrivée, dont 25 000 environ venus de l'étranger. C'est la seconde fois que la course de fond la plus populaire du monde est annulée après la parenthèse de 2012 consécutive au passage de l'ouragan Sandy. Toujours ici aux États-Unis, mais cette fois-ci en basketball, le joueur des Los Angeles Lakers, Avery Bradley, a choisi de ne pas prendre part au championnat lorsque la NBA va reprendre la saison 2019-2020. Il a soutenu qu'il ne veut pas risquer la santé de sa famille. « Je joue au basketball pour ma famille », a déclaré Bradley, ajoutant. « Et donc, à un moment comme celui-ci, je ne peux pas imaginer prendre une décision qui pourrait mettre la santé et le bien-être de ma famille au moindre risque. La saison va donc reprendre le mois prochain à huis clos, à Orlando, en Floride, sans Bradley, dont le fils de 6 ans, Liam, a des antécédents de maladies respiratoires. Il a déclaré qu'il utiliserait son temps pour travailler sur les questions de justice sociale et d'égalité raciale.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, des centaines de manifestants, la plupart de l'UDPS, parti du président Félix Tshisekedi, ont donc pris d'assaut les alentours du Parlement pour tenter d'empêcher le vote d'une loi de réforme sur la magistrature qui donne un droit de regard du ministre de la Justice sur le parquet. Les manifestants se sont attaqués aux résidences de certains députés, dont celui d'Emmanuel Ramzani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, parti de l'ancien président Joseph Kabila. La police a usé de gaz lacrymogène pour les disperser. Isango a joint à Kinshasa le vice-président de la commission environnement de l'Assemblée nationale, François Zekouyé.
Je crois que c'est un malentendu. Les personnes qui s'élèvent contre cette proposition de loi ignorent que la constitution de notre pays depuis 2011 a soustrait les magistrats du parquet des personnes citées à l'article 139 de notre constitution comme étant membres des cours des tribunaux. Aujourd'hui, il est juste question de rencontrer les dispositions de la constitution et les adapter aux lois concernant la magistrature. Encore, c'est quelque chose de tout à fait normal et banal, mais on a l'impression qu'il y a des compatriotes qui ne les comprennent pas et qui veulent instrumentaliser une certaine population pour aller contre le droit des députés d'exercer normalement son travail, de proposer une loi. Tout à fait qu'un débat s'en suivre et les lois organiques sont soumises au contrôle des constitutionnalités. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'article constitutionnel devra se prononcer sur la conformité ou non de ces propositions de loi. Et donc, ça devrait se faire dans une certaine sérénité. Et laisser chacun faire son travail.
Et vous estimez que les gens qui manifestent sont manipulés?
Absolument, ils sont instrumentalisés parce que vous avez lu le communiqué de l'UDPS qui appelait les gens à manifester aujourd'hui et nous avons des informations selon lesquelles ces personnes ont été droguées avec de l'alcool fort et du chanvre pour aller attaquer les institutions et pire, aller s'attaquer au domicile des citoyens paisibles qui n'ont rien à voir avec une article de loi. Aujourd'hui, s'attaquer à la résidence de Ronald Chadari, s'attaquer à la résidence de Kimbuta ou de Kansaji, encore hier celle de Dominati, n'a aucun sens vis-à-vis d'un travail parlementaire. Je ne vois pas en quoi un député peut être agressé pour avoir exercé son travail. C'est inadmissible dans une démocratie.
Ce sont des centaines de personnes, vous dites qu'ils sont, ce sont des personnes droguées.
Oui, absolument. Nous allons les prouver et les attaquer en justice deuxièmement parce que nous savons qui sont derrière et il n'y a pas de doute qu'il y a des auteurs qui sont clairement identifiés. Les autorités de l'UDPS qui se comportent comme des délinquants pendant qu'ils sont au pouvoir.
Vous parlez de justice, mais les magistrats eux-mêmes sont opposés à ces propositions de loi.
On le comprend bien, mais aux États-Unis où vous êtes, je crois que le ministre de la Justice est le grand procureur général. Dans quel pays au monde où le gouvernement met en place une politique pénale, mais il n'a aucun contrôle sur les magistrats?
Mais est-ce que ce n'est pas une tentative de caporaliser la justice au moment où la justice essaye de se relever?
Parce que si vous avez eu le texte en question, est-ce que vous me citez un seul article qui montre que les magistrats, par ces réformes, vont être caporalisés par le ministre de la Justice?
Le député national François Zekouyé, président de la commission environnement à l'Assemblée nationale de la RDC.
Abdourahmane Dia avec vous, cette semaine dans Washington Forum.
La condamnation à 20 ans de travaux forcés pour détournement de fonds et corruption de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, est diversement appréciée en RDC. Si certains saluent un pas important dans la lutte contre la corruption, d'autres y voient un règlement de compte politique. Ce procès de 100 jours marque-t-il un tournant dans la reddition des comptes? Quel est l'avenir de la coalition au pouvoir dont Kamerhe était l'un des ténors? Nous allons débattre de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com. Après avoir constaté une baisse des cas de COVID-19 au Tchad, le comité de gestion de la crise sanitaire, dirigé par le président Idriss Déby Itno, a décidé de la reprise des cours pour les classes d'examen et les universités ce jeudi 25 juin. Une reprise qui doit se faire sous certaines conditions, notamment le strict respect des mesures barrières. Le point avec André Kotmadjingar, notre correspondant à N'Djamena.
Les temples du savoir sont fermés depuis 3 mois et 1 semaine pour prévenir le risque de propagation du coronavirus. Pour tenter de rattraper le temps perdu, les autorités de N'Djamena ont fait une faveur aux élèves des établissements publics et privés et aux étudiants de certaines universités. Les élèves en classe d'examen de 3e et terminale ont 1 mois de cours pour préparer le brevet d'études fondamentales et le baccalauréat pour éviter une année blanche. Oudingar David, ministre en charge de l'enseignement supérieur.
Les dispositions nécessaires ont été prises en termes de pulvérisation des salles, en termes de mesures qui ont été prises pour permettre de respecter la distanciation, même s'il y a des petites choses à régler.
Abdelsalam Idriss Mahamat, proviseur du lycée technique commercial qui a plus de 600 candidats, a dit à VOA Afrique que pour respecter la distanciation physique, chaque classe est scindée en deux.
Ce qui nous donne un effectif inférieur à 30 par élève. La deuxième chose, que tout le monde puisse passer par un dispositif pour prélever la température. Et le ministère s'est engagé de mettre à notre disposition de thermoflash. Et en plus de ça, il n'y aura pas une récréation. C'est vrai, on nous a dit que la capacité quand même de concentration d'un élève ne dépasse pas 1h30, mais toutefois nous allons faire des pauses de 5 à 10 minutes seulement dans les salles de classe.
Un autre grand lycée de la capitale se trouve à un jeu de pierre du lycée technique commercial. C'est le lycée Félix Eboué qui compte 16 classes de terminale littéraire. C'est là aussi où est logé le lycée scientifique avec 12 classes de terminale scientifique dont Shamshaldine Mahamad Dab en est le proviseur.
Nous avons fait un élève partable de façon brisée. Les enseignants qui intervenaient en terminale vont conserver leur classe. Eh bien, si on constate qu'il y a un effectif un peu dépassé dans les salles de classe, nous allons faire appel aux enseignants qui interviennent évidemment en première et en seconde.
Cette manière de procéder aura une répercussion négative sur les élèves, estiment les enseignants.
C'est pas tous les professeurs qui sont à la hauteur des classes de terminale. Et donc, si jamais on les affecte comme ça, ça posera des problèmes de transmission.
Miaounoum Nadi, proviseur du lycée privé Les Excellents, il évoque d'autres contraintes.
Vous savez que beaucoup d'établissements aujourd'hui sont inondés. Aujourd'hui, c'est un prétexte pour beaucoup des anciens qui sont capables de dire que non, il a plu, il y a l'inaccessibilité dans l'établissement.
1 mois de cours complémentaires, les élèves estiment largement suffisant pour préparer et réussir les examens. Le syndicat des anciens du Tchad section départementale qui conditionnait la reprise des cours au paiement des sommes dues aux ceux qui ont participé au téléenseignement a suspendu sa menace de grève et donne 3 semaines au gouvernement pour satisfaire cette revendication. André Kodumadjingar N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, à N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le débat sur la monnaie régionale ouest-africaine ECO est relancé suite à la sortie du président nigérian sur la question. Muhammadu Buhari a déploré la démarche des pays de l'UEMOA utilisant le CFA, dont la mort prochaine a été annoncée par le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et la France. Selon leur schéma, le CFA sera bientôt remplacé par l'ECO, que rejoindraient plus tard les autres pays de la région. Mais Muhammadu Buhari dénonce le manque de concertation qui pourrait mettre en danger ce projet régional. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint à Bamako l'économiste Lamine Keïta.
Nous savons que les pays de la CEDEAO avaient un vieux projet, pour renforcer leur intégration économique par l'appoint monétaire. Bon, chemin faisant, les pays africains de l'UEMOA se sont mis également ensemble, avec leur monnaie commune déjà. Bon, en accord avec la France, ils ont appelé ça.
Est-ce que ce n'est pas cela le problème, justement? C'était un projet commun et les 8 pays de l'UMOA se sont prononcés en faveur d'une monnaie prochaine qui s'appelle l'ECO sans consulter les autres pays.
Tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'ai dit. C'est effectivement, c'est comme s'il y a deux ECO et comme si l'ECO à 8, l'ECO avec l'UMOA qui va peut-être capter les autres pays de la CEDEAO, ce qui est une autre idée qui n'est pas l'idée originelle. Et une telle décision, mais sans concertation, effectivement, pose des problèmes effectivement quant à la continuité de la première initiative.
D'accord. Docteur Keïta, au vu de tout cela, êtes-vous optimiste qu'on va arriver à l'ECO tel que conçu, vu par la CEDEAO de façon globale?
En réalité, la CEDEAO doit être assez stratégique pour ne pas manger la soupe dans laquelle on a craché. Si la CEDEAO casse, c'est ça l'avantage de qui? De celui qui n'était pas le même, mais qui est là. Et c'est ça l'avantage de la France. Donc si on perd de stratégie, on casse la CEDEAO, ça veut dire que le projet colonial là va continuer encore. Les autres pays qui sont là, qui n'auraient pas avoir la chance de sortir de cet esclavage monétaire, ils ont perdu une occasion. À eux maintenant de faire le bilan, qu'est-ce que réellement ça nous coûte et qu'est-ce que nous on gagne effectivement. Ils verront qu'à l'analyse, ils ne gagnent absolument rien et que c'est un piège extrêmement profond. Ils travaillent sans que le produit du travail ne leur revienne. Parce qu'on ne connaît pas comment la monnaie fonctionne, on ne connaît pas comment le principe fonctionne. Et si par manque de stratégie, on se laisse aller à là, ça veut dire que le projet de décolonisation en Afrique de l'Ouest va encore prendre encore un siècle. Il faut qu'on soit suffisamment stratège pour récupérer ce projet africain et en faire un projet africain.
L'économiste malien Lamine Keïta.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le président américain Donald Trump était mardi dans l'Arizona, dans le sud-ouest du pays, pour inspecter le mur frontalier avec le Mexique. Il a prononcé un discours pour souligner ses réalisations en matière d'immigration. Cette semaine, M. Trump a signé un décret pour suspendre certains visas de travail afin, dit-il, de mieux protéger les emplois américains. Patsy Widakuswara, correspondante à la Maison-Blanche, fait le point dans ce reportage repris ici par Lionel Gahima.
Le président Donald Trump a visité une section du mur dans le comté de Yuma en Arizona et y a apposé sa signature. Pour marquer les 322 kilomètres de mur que son administration dit avoir construit le long de la frontière avec le Mexique.
Il s'agit de la structure la plus solide et la plus complète au monde. Elle possède une incroyable technologie que personne ne pourrait croire, avec des capteurs, des caméras et tout le reste.
L'administration Trump prévoit de construire 725 kilomètres d'ici la fin de l'année. Selon la police des frontières, la majorité du mur construit a remplacé d'anciennes barrières. Parallèlement, M. Trump a signé un décret suspendant certains visas de travail, y compris les visas H-1B, pour des domaines spécialisés comme la haute technologie jusqu'à la fin de l'année. L'administration a fait savoir que le décret va aider les Américains cherchant du travail pendant la pandémie de coronavirus. Mais la mesure est critiquée par les géants de la technologie comme Amazon, Google ou Microsoft qui font venir chaque année des milliers de travailleurs étrangers hautement qualifiés. James Petrokoukis est analyste à l'American Enterprise Institute.
Certaines compétences peuvent ne pas être facilement reproduites par les travailleurs déjà sur place. Vous ne pouvez pas mettre une annonce dans un journal et avoir aussitôt 20 personnes à votre porte qui peuvent faire le travail.
Le décret affecte des centaines de milliers de travailleurs étrangers, y compris la plupart de visas H-2B pour les travailleurs saisonniers non agricoles et plusieurs autres catégories. Hassan Ahmad, avocat en immigration.
Les visas J comprennent les jeunes au pair, les étudiants étrangers, les universitaires et les chercheurs invités et même les médecins étrangers. Il y a aussi les visas L qui sont des visas de transfert entre sociétés pour les dirigeants d'entreprise, les gestionnaires et les personnes ayant des compétences spécialisées.
Avec sa visite à la frontière, le président a cherché à revitaliser sa base en affichant sa fermeté sur l'immigration, une promesse de la campagne.
James Petokokis de l'American Enterprise Institute.
Cela semble faire partie d'une conception économique plus large et d'une philosophie politique que l'immigration est mauvaise pour l'Amérique. Et dans la mesure où les leaders républicains, y compris le président, pensent que c'est ce que veut leur base, ils essayent de le leur donner.
Alors que l'Arizona est traditionnellement considéré comme une valeur sûre pour les républicains, il est devenu un champ de bataille où les résultats des élections de novembre prochain restent imprévisibles.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph. À la